toutes et à tous, bienvenue dans la Soirinale de Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une soirinale spéciale ce soir en direct de Strasbourg et du Club de la Presse pour parler des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Nous retrouvons tout de suite notre journaliste Romain Lostis en co-animation avec Olivier Singer, chargé de mission au Centre Europe Direct de Strasbourg. Bon débat à toutes et tous et bonjour Strasbourg.
Merci Laurence, bienvenue et merci à vous qui nous rejoignez pour cette émission ici en public enregistrée en direct. Nous sommes dans les locaux du Club de la Presse au cœur de Strasbourg. Je suis Romain Lostis, journaliste pour la radio européenne E-Radio. J'ai le plaisir d'animer cette soirée avec Olivier Singer, chargé de mission au Centre Europe Direct de Strasbourg et également chroniqueur sur E-Radio. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Romain. Alors, c'est moi qui enchaîne tout de suite. Alors, non, c'est toi hein, qui dois parler. Alors, le mouvement européen, le Club de la Presse, E-Radio et le Centre Europe Direct de Strasbourg, nous réalisons un cycle de 4 émissions radio en public, enregistrées depuis, c'est pas enregistré, c'est en public puisque c'est en direct, à Strasbourg et retransmises chaque fois sur l'ensemble des stations radio d'E-Radio, soit sur toute la France et Bruxelles. 4 émissions pour 4 thématiques, donc, pour nous rapprocher progressivement des élections européennes du 6 au 9 juin prochain. En février dernier, nous avions exploré les enjeux liés à la jeunesse, à ses aspirations pour les élections européennes. Au mois de mars, nous avions voulu prendre un peu de recul en jetant un regard sur l'Europe vue de ses voisins, turcs, ukrainiens ou encore américains. À présent, pour cette nouvelle soirée, en direct, nous allons plutôt nous concentrer sur un espace plus précis à travers le cas particulier de Strasbourg.
Pour ma part, Olivier, j'ai une expérience encore assez récente de cette ville qui est Strasbourg. J'ai quand même pu observer que ici, pour donner un premier exemple, l'exemple du Parlement européen dont le siège est ici à Strasbourg, ça reste un sujet qui reste encore délicat ici à Strasbourg. Ce qui m'a amené, moi, à m'interroger comme jeune journaliste ici à présent à Strasbourg depuis peu, qui m'a amené à m'interroger sur ce que cette ville a de si particulier, Olivier.
En effet, Romain, la ville de Strasbourg a un statut particulier puisqu'elle est, parmi d'autres, une des capitales européennes. Elle accueille plusieurs institutions et organismes européens et internationaux, dont le Parlement européen qui a son siège à Strasbourg. C'est donc notamment dans cette ville que se réuniront les députés européens qui seront élus par les citoyens du 6 au 9 juin. Alors, quelle est la spécificité de cette ville? Pourquoi avoir décidé d'y amener le Parlement européen? Pourquoi le siège du Parlement européen à Strasbourg est-il régulièrement remis en cause? Quel regard portent les Alsaciens sur cette construction européenne? Y sont-ils particulièrement attachés? Qu'est-ce qui se décide donc ici à Strasbourg dans ce beau quartier européen? Nous vous proposons donc aujourd'hui de regarder l'Europe vue de sa capitale démocratique et nous avons pour cela avec nous Sylvain Schirmann. Bonjour Monsieur Schirmann.
Bonsoir.
Alors vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, ancien directeur de Sciences Po Strasbourg. Vous êtes président du comité scientifique de la maison de Robert Schuman et professeur invité au Collège d'Europe de Bruges. Alors vous êtes accompagné de Monsieur Libera. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes également enseignant, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg et titulaire de la chaire Jean Monnet, information, désinformation et construction européenne, approche historique. Et donc sur le siège du Parlement européen, il y a aussi beaucoup de désinformation. Et vous publiez tous les deux « Idées reçues sur l'Union européenne » aux éditions Cavalier Bleu, qui est sorti aujourd'hui même dans toutes les bonnes librairies. Nous sommes également heureux d'avoir la présence d'Anne-Camille Béclin.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, correspondante Europe ici à Strasbourg pour les DNA et pour le groupe Rebra. Et vous, à force d'arpenter le Parlement européen à Strasbourg, vous en connaissez les moindres recoins et l'Europe à Strasbourg n'a aucun secret pour vous. Et enfin, Elfèche Tignel, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes responsable communication auprès du Centre européen des consommateurs. Vous nous expliquerez aussi le rôle de cette structure et l'intérêt que la France et vous y avez d'y être installés ici à la frontière franco-allemande à Kiel exactement. Alors, donc, bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a une petite question pour commencer, un petit peu pour nous mettre en route. La première question, c'est à vous, que représente pour vous finalement l'Europe de Strasbourg? Je commence avec vous, Elfège Tignel.
L'Europe de Strasbourg, pour moi, c'est quelque chose de concret, puisque j'y vis, je travaille en passant une frontière tous les jours, et je travaille pour les consommateurs et pour défendre leurs droits. Donc effectivement, pour moi, c'est quelque chose de très concret, et j'y vois tous les aspects positifs, ou en tout cas les aspects de la vie de tous les jours, en prenant l'avion, en étant protégé, en achetant sur Internet et en sachant qu'il y a que l'Europe nous protège, en n'ayant plus de surcoûts quand je téléphone depuis l'Allemagne ou d'un autre pays de l'Union européenne vers la France. Donc pour moi, l'Europe, c'est concret. Et l'Europe de Strasbourg peut-être encore plus pour défendre les droits des consommateurs, qu'ils soient strasbourgeois, mais français comme européens.
Anne-Camille Béclin, peut-être, qu'est-ce que ça vous évoque en premier, une expression comme l'Europe de Strasbourg ?
C'est marrant parce que j'ai entendu en 20 années de couverture des sujets européens à Strasbourg des centaines de réponses à cette question qui se ressemblaient toujours beaucoup, et en fait on ne me l'a jamais posée. Donc là je me dis, mais c'est quoi pour moi l'Europe de Strasbourg ? Je dirais que c'est celle des citoyens. Et de façon assez large, parce que c'est le Parlement européen est ici, et c'est donc l'expression de la démocratie citoyenne, de la démocratie représentative. Aussi parce que, comme quand on va à Bruxelles dans le quartier européen, et Romain, vous en avez fait l'expérience, c'est quand même assez bunkérisé, le quartier européen de Bruxelles, et quand même on est dans un quartier institutionnel. Il y a un quartier européen aussi à Strasbourg, mais il est quand même, les échanges avec la ville se font quand même beaucoup plus, les députés européens, les assistants vivent aussi dans la ville de Strasbourg. Et il y a un élément extrêmement important, c'est celui de la présence du Conseil de l'Europe et de ses différents organes, dont la Cour européenne des droits de l'homme. Du temps où la Russie était encore membre du Conseil de l'Europe, ça remonte à pas si longtemps, il y avait des lettres qui arrivaient à la Cour européenne des droits de l'homme qui venaient du fin fond de la Russie. Et l'adresse de Strasbourg est connue d'un nombre très très grand d'Européens, de dizaines de milliers, si ce n'est de dizaines de millions d'Européens, grâce à la Cour européenne des droits de l'homme, dont ils savent quel est leur dernier recours.
Martial Libera, Sylvain Schirmann, peut-être pour vous, si vous vouliez compléter cette première description de la dimension européenne de Strasbourg ou de cette Europe de Strasbourg, qu'est-ce que vous ajouteriez ?
Alors pour moi, un regard très différent, peut-être plus d'historien. Pour moi, l'Europe de Strasbourg, c'est la conjonction en un lieu de quatre types d'Europe. D'abord, une Europe qui s'est construite anciennement à Strasbourg, puisque Strasbourg est le siège depuis 1919 de la première grande organisation internationale européenne, qui est la Commission centrale pour la navigation du Rhin, qui avait été créée après le congrès de Vienne en 1815 pour faciliter à la fois la circulation fluviale sur le Rhin, grand axe économique, et en même temps favoriser la paix entre les différents pays riverains. Donc c'est d'abord le siège de cette organisation internationale spécifique, technique. Ensuite, c'est évidemment le siège du Conseil de l'Europe, donc d'une organisation internationale européenne, encore une fois, cette fois-ci davantage dévolue à toute la problématique des droits de l'homme, de leur protection, etc., de l'éducation, mais qui, à l'origine, avait d'autres finalités, qui étaient davantage l'unité politique de l'Europe. Le troisième volet, c'est évidemment une des capitales de l'Europe communautaire, avec le Parlement. On en a parlé. Et puis le dernier point aussi, mais ça c'est dû à la situation géographique de Strasbourg. Strasbourg, c'est aussi, au fond, l'un des cœurs de la coopération transfrontalière. Alors ici, directement avec l'Allemagne, à travers l'Eurodistrict, Strasbourg-Kehl ou Strasbourg-Ortenau, à travers aussi d'autres types de coopération. On pense à la coopération universitaire par record, on peut penser à beaucoup de choses. Et donc, il y a ces quatre formes d'Europe qui sont, au fond, assez différentes, qui se retrouvent sur ce lieu, hein, à ce point un petit peu d'intersection, à ce carrefour, pourrait-on dire un peu facilement, en reprenant l'étymologie du nom de la ville. Voilà ce que moi je voulais, voilà à quoi ça me fait penser.
Et bien, peut-être une dernière, première pensée, Sylvain Schirmann ?
C'est quelque chose de très personnel. Pour moi, Strasbourg, c'est le lieu où j'ai découvert les études européennes. Parce que quand j'ai commencé mes études universitaires, il n'y avait pas beaucoup d'endroits dans cette belle Europe communautaire où on offrait des études spécifiquement centrées sur l'Europe. Et donc j'ai découvert les études européennes dans cette ville. Et donc, par voie de conséquence aussi, parce que je ne suis pas alsacien, je ne suis pas originaire de Strasbourg. Et donc j'ai découvert cela ici, dans une logique interdisciplinaire. Voilà. C'est quand même rare. Ce sont de rares types d'études qui permettent l'interdisciplinarité. Les études européennes, et où ça? Dans un institut qui s'appelait l'Institut des hautes études européennes de Strasbourg, et où, dans feu l'université Robert Schuman, eh bien, on avait un pôle qui était plus ou moins centré avec les juristes de droit communautaire et les historiens et les politistes sur les questions européennes. Et les lieux n'étaient pas nombreux en Europe. Où est-ce qu'on pouvait faire des études européennes au début des années 80? Quels étaient les programmes centrés sur l'Europe à ce moment-là dans les différents pays? Ben, c'était quelque chose qui était relativement réduit. Donc, on pouvait parler de Bruges. Mais Bruges était une filière un peu particulière, sélective, peu nombreuse encore à l'époque. C'était pas le Bruges que vous avez aujourd'hui avec ses nombreux éléments. Et puis, il y avait deux, trois éléments dont, assez curieusement, mais c'est pas si curieux que ça, des villes de l'Est de la France, puisque vous aviez le Centre d'études européennes de Nancy, qui était né au début des années 50, et ensuite le centre de Strasbourg. Donc pour moi, Strasbourg, c'est la découverte de l'Europe en tant qu'objet d'étude, et par voie de conséquence, tout ce qui va après avec pour moi.
Alors, d'autres Européens qui est un grand Européen, je pense à vous, ça me fait penser à ce que disait souvent Jean-Claude Juncker, qui est un grand Européen contemporain,
qui
est venu à étudier à Strasbourg, qui était premier ministre du Luxembourg pendant très longtemps et président ensuite de la Commission européenne. Il est venu étudier le droit à Strasbourg et il a développé, notamment avec le Conseil de l'Europe, une relation qu'il n'osait pas qualifier d'érotique, disait-il. C'est aussi là qu'il a rencontré sa femme, je ne sais pas si. Mais en tout cas,
moi,
oui, Strasbourg
cas,
a été historiquement
bon.
Un grand.
Alors, tout au long de cette émission, de cette soirée passée ensemble, nous allons donc décortiquer un peu ensemble cette expression de d'Europe de Strasbourg, mais aussi en se posant des grandes questions. L'une de ces grandes questions, c'est pourquoi Strasbourg peut-elle se dire capitale européenne? Alors, Martial Libera, vous avez cité plusieurs exemples. Vous avez commencé par dire que ça pourrait être, de par l'ancienneté des organisations internationales qui sont présentes à Strasbourg, comme par exemple la plus ancienne d'entre elles qui est encore en activité, c'est la Commission centrale sur la navigation du Rhin. Vous avez aussi évoqué le Conseil de l'Europe. Alors, vous nous confirmez bien que pour cette organisation internationale, par exemple, il n'y a jamais eu de débat, finalement, sur où devrait être son siège.
On parle du Conseil de l'Europe.
Ah.
Les deux. Mais finalement, le siège, là, il ne s'est pas discuté, il s'est placé comme ça.
Pour la Commission centrale pour la navigation du Rhin, le premier siège n'était pas du tout à Strasbourg. Hein. La commission a été créée en 1815. Ensuite, il y a eu une longue période où il y a eu toute une série de tractations entre les États membres. Et ça s'est déroulé à Mayence. Et puis ensuite, la commission a eu son siège à partir de 1868 à Mannheim, en Allemagne. Et en 1918-1919, après la fin de la Première Guerre mondiale, en fait, l'idée, c'est de punir l'Allemagne. Et les Français ont une envie, c'est de rapatrier le siège de la commission chez eux, parce que ça leur donne une certaine forme de supériorité, de pouvoir diplomatique. Et donc, c'est pas du tout... C'est un rapport de force, là. C'est l'idée de faire basculer la Commission en France pour montrer désormais que sur le Rhin, c'est plus l'Allemagne qui a la main, qui peut donner le « là », mais que ce « là » va être donné par la France. Et donc, c'est très clair. Alors, c'est d'autant plus clair que, jusqu'en 1918, seuls les pays riverains étaient membres de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Mais après 1918, quand on rapatrie le siège ici à Strasbourg, on fait aussi entrer d'autres pays qui ne sont pas forcément des pays riverains. On fait entrer l'Italie, on fait entrer la Grande-Bretagne, on fait entrer la Belgique. Tout ça avec l'idée de créer une coalition d'États pro-français qui permettront d'imposer les décisions pro-françaises aux Allemands vaincus. Et aussi un peu aux Néerlandais, mais surtout aux Allemands. Donc cette première expérience d'une ville internationale, elle n'est pas du tout sur le même modèle que ce qui se passera ensuite. C'est pas du tout l'idée de réfléchir ensemble.
À une Europe unie.
C'est pas du tout l'idée d'une Europe, c'est l'idée d'un rapport de force. Et d'ailleurs, dès les années 30, les Allemands, les Italiens sortent de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. À partir du moment où les États fascistes, autoritaires s'imposent, ils sortent. Et après 1945, l'Italie ne reviendra pas, par exemple. Voilà.
Donc pour le Conseil de l'Europe, cette fois-ci, si on reste au Conseil de l'Europe, là, il n'y a pas le siège de Strasbourg, il a été défini assez rapidement dans le traité de Londres et il est resté et il n'est pas contesté.
Ceci étant, c'est pas aussi simple que ça.
Parce que nous avons des historiens avec nous, mais c'est vrai qu'il faut nous rappeler les faits, mais en même temps, est-ce que ça a été fixé assez rapidement?
Après, on pourra peut-être revenir sur quand est-ce que s'est dessiné ce concept d'Europe de Strasbourg, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. En 1949, quand le Conseil de l'Europe s'installe dans cette ville, vous ne parlez pas d'Europe de Strasbourg. C'est un cadeau d'abord des Britanniques. Il faut quand même pas l'oublier. Parce que quand Robert Schuman se rend à la conférence de Londres pour négocier le traité de Londres d'où sort le Conseil de l'Europe, au mois de janvier 49, donc on ne sait même pas encore quelle est la constitution de cette structure, comment elle va fonctionner, Ernst Bevin, le ministre des Affaires étrangères britannique, propose à Robert Schuman que la France accueille le siège du Conseil de l'Europe. Et fixe cela tout de suite à Strasbourg.
C'était un quand peu un cadeau empoisonné, c'était un peu une...
Quand vous avez un cadeau des Britanniques, vous vous méfiez, quoi. faut vous dire une chose très simple, comme cela. Donc c'est, comme vous dites, un cadeau empoisonné, c'est-à-dire que, fidèle au discours de Zurich, de Churchill, on va mettre en avant la réconciliation franco-allemande dans cette ville, mais quand vous commencez à réfléchir en historien... Qu'est-ce que c'est que l'Allemagne en 49? Elle n'existe pas. Donc comment vous voulez célébrer la réconciliation franco-allemande avec un pays qui n'existe pas? Okay. Ensuite, quand vous signez le traité de Londres, l'Allemagne va naître 3 jours après la RFA. Mais elle ne peut pas entrer au Conseil de l'Europe. Alors comment vous allez encore célébrer cette réconciliation avec un pays qui ne peut pas entrer au Conseil de l'Europe? Donc, en fait, l'idée est mise en avant pour rester... conforme au discours de Winston Churchill à Zurich en 46 qui dit que la réconciliation franco-allemande doit être au cœur du futur projet d'une assemblée européenne. Mais après, on sait très bien aussi, il suffit d'aller au Foreign Office à Londres et vous voyez ça dans les papiers, pourquoi Strasbourg a été choisi. Les Britanniques avaient 2 idées en tête. Un, il fallait pas que le siège soit dans une capitale d'État. Parce que dans une capitale d'État, quand vous mettez une organisation internationale, elle se développe automatiquement du fait de la présence des ministères, des gouvernements, etc., etc. Et deux, il fallait aussi que cette ville soit le plus éloignée possible d'une capitale d'État des futurs États membres. Et donc, ils ont fait leur calcul. En 1949, vous mettez 6h30 de train de Paris à Strasbourg, c'est suffisamment éloigné. Et ensuite, vous prenez les autres États membres qui devaient rentrer là-dedans. Le Danemark, Copenhague, c'est assez loin. Bruxelles, c'est loin, c'est 6h, 6h30 de train. La Haye, c'est encore plus loin. Rome, n'en parlons pas. Donc, on avait tout. Parce que de leur point de vue, il fallait éviter que cette assemblée se développe. Puisque tout le monde sait qu'ils ont été contraints d'entrer dans le Conseil de l'Europe. Ils ne voulaient pas, les Anglais, entrer dans une structure européenne. Mais Robert Schuman a intelligemment imposé au début de la discussion l'idée que cette assemblée ne se ferait pas si les Britanniques n'entraient pas. Et donc, plutôt que de voir ce projet être écarté de la table, bah, ils y sont rentrés. Mais à partir de ce moment-là, il ne faut pas que l'assemblée se développe. Donc, le côté intergouvernemental... Vous l'avez, complètement intergouvernemental, avec quasiment un droit de veto des États. Voilà ce que ça veut dire. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Une ville-siège qu'ils ont choisie avec une symbolique. Mais après, c'est ce que vous, vous faites de la symbolique qui devient intéressant. Parce que les Français et les Allemands se sont saisis de la symbolique par la suite. Et c'est là que ça prend tout son sens. Mais au point de départ, pour les Anglais, c'était éviter que cette Assemblée européenne... prennent une importance trop grande qui était essentielle.
Alors on va essayer d'aborder encore un petit aspect historique qui va nous placer un peu pour cette dimension européenne. On va avancer. Ensuite, il y a eu donc la création de ce qu'on appelle la Communauté européenne du charbon et de l'acier, aujourd'hui, dont on fête aujourd'hui l'acte de naissance, puisque nous sommes le 18 avril. Donc là, on a une bataille, on va dire, on pourrait déjà dire qu'il y a une vraie bataille des sièges qui va arriver à ce moment-là, puisque là, il fallait aussi fixer des sièges à ces institutions, dont cette Assemblée de cette fois-ci de la CECA, la haute autorité. Donc là, on a vu déjà aussi, à nouveau cette fois-ci, la dimension européenne de Strasbourg qui était en balancement avec d'autres. L'Assemblée de la CECA n'était pas automatiquement destinée à être à Strasbourg. La haute autorité n'était pas destinée à être à Luxembourg. Il y a eu une bataille aussi à ce niveau-là au départ.
Ben, si vous regardez le traité du 18 avril 51, puisqu'on est un 18 avril aujourd'hui, le traité CECA, il n'y a aucun siège qui est fixé, puisque les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les sièges. Donc il n'y a pas de bagarre au point de départ, ou plutôt la bagarre est multinationale, puisque quand on regarde les éléments de près, l'Italie voulait le siège et avait proposé comme siège de la CECA Turin. Les Belges voulaient le siège et avaient proposé comme siège Liège. Les Français, Robert Schuman, n'a pas proposé Strasbourg, même si c'est un grand ami de Strasbourg par ailleurs, il a proposé la Sarre. On aurait pu faire de la Sarre, de Sarrebruck et de la Sarre, un district européen. C'était l'idée de Schuman. Mais cette idée, elle est inadmissible pour Konrad Adenauer. Pour une raison bien simple, pour lui, la Sarre est allemande et personne ne peut disposer de la Sarre comme cela. Donc, une bagarre, elle a eu lieu. Les Néerlandais avaient avancé aussi La Haye, qui était aussi siège d'une capitale internationale, Cour internationale de justice. Donc tout le monde a proposé son pays pour accueillir la CECA. Et in fine, comme on n'a pas réussi à se mettre d'accord, on a dit qu'on réglera la question plus tard, et en attendant, on va trouver des lieux de travaux. Et là, les États sont très pragmatiques. Le premier ministre du Luxembourg de l'époque, ministre des Affaires étrangères, Joseph Bech, a dit « Moi, j'ai un bâtiment de libre, on peut y installer provisoirement la haute autorité et ce qui va avec. » Et comme les députés des États membres de la CECA se réunissaient déjà au Conseil de l'Europe dans le cadre de l'Assemblée, on a dit « On a un hémicycle, on a ce qu'il faut, bah, qu'ils aillent se réunir à Strasbourg. Et on fixera les sièges plus tard. Il faudra attendre 1992 pour que les sièges de l'Europe communautaire soient fixés. »
Anne-Camille Béclin, vous travaillez donc pour le DNA ici à Strasbourg. Vous me disiez plutôt avant le début de cette émission que dans les archives du DNA, on peut voir, on peut témoigner de cette longue bataille des sièges, y compris pour le siège du Parlement européen, qui est depuis le début, en fait, c'était pas facile, c'était pas admis que ça allait être Strasbourg.
Oui, c'est-à-dire que quand la première réunion de l'Assemblée parlementaire européenne, ce qui est le début de ce qui deviendra en 1962, déjà le Parlement européen, les DNA titrent, le jour de l'installation, la question du siège des institutions européennes doit être résolue d'urgence. On est en 1958, donc c'est exactement ce que vous disiez. Et en effet, on a un trésor au DNA, c'est nos archives qui remontent en plus à la fin du 19e siècle. Et remonter ces archives, à chaque fois, moi qui traite la question de la bataille, ce qu'on appelle la bataille du siège depuis longtemps, je me dis que si vous voyez ces archives, les grands détracteurs de Strasbourg devraient être amenés à une certaine humilité. Puisqu'en fait, c'est une bataille qui est menée depuis, oui, les années 50. Il y a des articles parlant avec pour titre « Bataille du siège 2 points » qui date d'avant ma naissance. Donc on voit ce déroulé-là se faire depuis donc plus de 70 ans. Quoi.
Monsieur Schirman, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Par rapport à ce que dit ma collègue, dès 49, quand le Conseil de l'Europe se réunit pour la première fois en août 49 à Strasbourg, vous avez des journaux danois et suédois qui titrent « Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette ville ?» Elle a une allure...
J'ai pas ces argus là, malheureusement.
Ouais. Elle a une allure provinciale. Hein. Rien ne s'y passe. Je vous le cite.
Alors, nous allons continuer à explorer ensemble cette dimension européenne, y compris dans ses critiques et ses remises en cause tout au long de l'histoire. Mais avant d'aller plus avant dans cet échange, nous vous proposons à vous et au public ici présent avec nous de prendre un instant pour écouter une chronique sur Euradio, chronique « L'œil sur l'Europe » de Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia, qui fait le point en ce mois d'avril, on le rappelle, à moins de 2 mois des élections européennes.
Euradio, l'œil sur l'Europe. Avec Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia.
Bonjour Joséphine Staron.
Bonjour.
Les élections européennes approchent à grands pas, mais les sondages montrent que la participation risque, une fois de plus, de ne pas être au rendez-vous.
Oui, la participation, c'est l'enjeu majeur de cette élection. La semaine dernière, un sondage IFOP pour Fiducia et Sud Radio montrait qu'à peine 45% des électeurs se déclaraient prêts à aller voter aux élections européennes en juin. Et c'est chez les jeunes qu'on constate le plus de démobilisation. En France, seuls 30% des moins de 18 ans pensent aller voter le 9 juin prochain. Donc c'est très faible.
Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'intérêt pour les élections européennes ?
Déjà, il faut se souvenir que les élections européennes ne sont pas les plus mobilisatrices des élections, loin de là. Les taux de participation sont souvent inférieurs à ceux des élections nationales ou locales, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Mais il y a quand même une différence avec les élections de 2019. Il y a 5 ans, les jeunes s'étaient mobilisés pour voter majoritairement pour les partis écologistes un peu partout en Europe. La percée des Verts, elle se vérifiait dans de nombreux pays et au sein même du Parlement européen. Mais cette année, on constate qu'une bonne partie de l'électorat jeune, qui est traditionnellement à gauche, ne compte pas aller voter. Le même sondage indique que, par exemple, 64% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle comptent s'abstenir lors des élections européennes. Ça, c'est énorme et c'est clairement un vote sanction.
Et est-ce que le manque d'intérêt pour les européennes témoigne aussi d'un manque de connaissance de la chose européenne ?
Oui, c'est certain, mais je ne pense pas qu'il y ait un manque d'intérêt. Une enquête publiée cette fois par le Parlement européen montre que 72% des Européens estiment que leur pays a bénéficié de l'adhésion à l'UE. C'est un chiffre très important. Donc les citoyens, on le voit, ils ont conscience de l'importance de l'UE, mais la manière dont est organisé le scrutin, ça fait que ce sont finalement des élections davantage nationales qu'européennes, et donc c'est surtout des considérations nationales qui prévalent dans les choix des électeurs, et aussi et surtout, on le voit tous les jours dans les débats qu'on a sur ces élections.
Justement, alors revenons sur le scrutin et le rôle du Parlement européen. Beaucoup estiment que le Parlement européen n'a qu'un rôle secondaire et que ce ne sont pas des élections déterminantes pour l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Je pense qu'effectivement, le mode de scrutin favorise une nationalisation des débats et confisque de facto toute possibilité de véritablement européaniser ces élections. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites, notamment par le Parlement européen, pour y remédier. Il y en a deux principales. L'une sur la création de listes transnationales et l'autre sur la création d'un média européen qui serait indépendant, diffusé partout et dans toutes les langues et qui traiterait des questions et des enjeux liés à l'Union européenne. Mais pour l'instant, aucune de ces propositions n'a été retenue par le Conseil. Concernant le rôle du Parlement, même si ses pouvoirs sont renforcés de traité en traité, le fait qu'il n'ait toujours pas le pouvoir d'initiative législative, ça réduit de fait son influence dans le processus législatif européen. Rappelons d'ailleurs que seule la Commission a le pouvoir de proposer des lois au Parlement, pas l'inverse. En revanche, depuis l'introduction dans le traité de Lisbonne du système du Spitzenkandidat, le rôle du Parlement est clairement établi dans le choix du président ou de la présidente de la Commission européenne.
Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit, Joséphine Staron ?
Oui. Le système du Spitzenkandidat, ça permet au Parlement européen d'élire le président de la Commission sur proposition du Conseil. En d'autres termes, le Conseil propose au Parlement un candidat et celui-ci doit se prononcer ensuite pour l'élire à la tête de la Commission ou non. Mais même là, on voit qu'il y a quand même matière à discuter puisque, pour faire simple, il y a deux versions de ce système du Spitzenkandidat en fonction de l'interprétation qu'on peut faire du traité de Lisbonne. La première version, c'est celle qui est promue par les députés européens. Ils veulent que le candidat proposé par le Conseil soit la tête de liste du parti qui serait arrivé en tête des élections. Et la seconde version, en revanche, c'est celle qui est privilégiée par le Conseil européen, qui veut garder la main sur le choix du président de la Commission.
Et laquelle est appliquée ?
Alors les deux, mais pas de manière systématique. En 2014, le choix de Jean-Claude Juncker comme candidat à la présidence de la Commission relevait de ce qu'on peut identifier comme la première version du Spitzenkandidat, puisqu'il était tête de liste du Parti Populaire Européen, le PPE, qui était arrivé en tête. Mais en 2019, c'est la seconde version qui a prévalu. Manfred Weber, c'était lui le candidat tête de liste du PPE, encore une fois vainqueur des élections, mais à la surprise générale, le Conseil a proposé Ursula von der Leyen, et elle a été élue par le Parlement. Donc, en somme, tout est possible, mais il faut que le président ou la présidente de la Commission représente d'une manière ou d'une autre la majorité parlementaire. Or, en 2024, les sondages indiquent que bien, si le PPE et le SPD, hein, les deux principales formations, vont se maintenir, les Verts et Renew, en revanche, vont perdre des sièges quand les partis de la droite radicale, Identité et Démocratie ou les conservateurs et réformistes, eux, eh bien, au contraire, ils vont en gagner. Donc, la face du Parlement européen, elle ne devrait pas changer radicalement, mais ce qui est certain, c'est qu'il va être peut-être plus difficile de former des coalitions, et ça, c'est l'un des enjeux majeurs de la prochaine élection.
Merci beaucoup, Joséphine Staron.
Merci.
Merci de nous retrouver. Il est 17h58 précisément ici à Strasbourg et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Euradio pour cette émission en direct organisée avec le Mouvement européen, le Club de la presse et le Centre Europe Direct à Strasbourg où nous tâchons d'explorer, de continuer à explorer ensemble cette Europe de Strasbourg. Alors nous venons d'écouter cette chronique qui a été diffusée le 11 avril dernier sur Euradio. Depuis, les choses ont un petit peu bougé puisque hier, mercredi 17 avril, une nouvelle étude a été rendue publique. C'est l'Eurobaromètre, donc l'ensemble d'études de l'opinion publique européenne. Alors cette étude, cette dernière étude était importante non seulement de par son sérieux, mais aussi parce qu'il semble que ce sera sans doute la dernière étude de cet acabit avant les élections européennes de juin. Moi, je voulais savoir, Anne-Camille Péclin, je sais que vous avez suivi cette actualité. Quelles observations en avez-vous tirées? Est-ce que les craintes formulées par Joséphine Staron dans la chronique qu'on vient d'entendre se confirment dans les derniers chiffres qu'on obtient?
Sur la participation,
par exemple?
Oui, en fait, pas vraiment. On constate que les intentions de vote... Alors, l'enquête a été faite en février, donc il faut surtout bien penser au biais qu'il y a. L'enquête elle a été réalisée dans toute l'Europe en février, et ce qui veut dire que dans les États, la campagne n'avait pas commencé. C'est ça le biais. On peut pas savoir quand une campagne n'a pas commencé si ce que disent les gens va se concrétiser. Mais le fait est que les intentions de participation aux élections européennes sont un peu supérieures aux intentions telles qu'elles étaient données dans la même étude il y a 5 ans avant les élections de 2019. Le fait est que la participation avait été en réalité, il me semble, 9 ou 10 points inférieure aux intentions de vote données dans l'Eurobaromètre de 2019. Donc si on suit par exemple les résultats qui sont donnés en France et la différence entre les résultats de l'enquête de 2019 et la participation réelle, on peut s'attendre à une participation d'environ 57% en France, là où elle était de 50% en 2019. Il y a une petite hausse d'intention de participation, mais c'était avant le début de la campagne.
Alors dans cette chronique, il y a aussi une chose qui un peu m'a un peu sauté à l'oreille, ça se dit pas très bien, mais c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est l'idée qu'elle insiste sur le fait que le Parlement européen aurait pour beaucoup de personnes un rôle secondaire. Ce qui nuit aussi à l'image de Strasbourg indirectement, puisque quand on dit que le Parlement a un rôle secondaire, c'est finalement ce Parlement qui est à Strasbourg qui a un rôle limité. Alors j'aimerais vous poser la question à vous, Monsieur Schirmann. Vu que vous venez de publier un livre, donc je rappelle le titre, hein, Les idées reçues. Alors, c'était je ne me souviens plus déjà de votre titre, alors que je l'avais sous les yeux, c'est Idées reçues sur l'Union européenne. Et la rubrique qui m'intéresse, c'est qu'à l'intérieur, vous avez mis le Parlement européen, une assemblée sans pouvoir. Alors, est-ce que c'est une idée reçue ou pas? Ce Parlement a-t-il du pouvoir?
D'abord, cet ouvrage, je l'ai commis avec mon voisin de gauche, Martial Libera, donc on est à deux au moins à être complices de ce qu'on peut nous reprocher. Mais cette idée du Parlement européen sans pouvoir, il faut peut-être l'inscrire dans la durée. À partir du moment où vous avez une assemblée élue au suffrage universel, qui commence en 1979, le Parlement ne peut qu'aller vers plus de pouvoir. C'est inscrit même dans une évolution historique. Donc si vous comparez par exemple le Parlement, dès qu'il est élu au suffrage universel, avec le Parlement antérieur qui provient des représentations nationales, en une session, il a acquis beaucoup plus de pouvoir. Dès les deux premières sessions, par exemple, il a acquis un pouvoir budgétaire réel. Voilà, puisqu'il approuve le budget qui lui est proposé par la Commission. Et dès 80, il montre à la Commission qu'en fait, elle peut être renvoyée dans ses cordes, puisque c'est la première opposition d'un Parlement élu à la Commission. et elle est obligée de revoir sa copie. Dès la première législature, Simone Veil se saisit de domaines qui ne sont pas expressément prévus dans les traités, mais où vous ne pouvez pas empêcher un Parlement d'arriver. Par exemple, et là ça va rejoindre Strasbourg, elle va se saisir de la question des droits de l'homme. Elle va en faire un instrument de défense des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est historiquement le Conseil de l'Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et voilà que mon Parlement européen, nouvellement élu alors qu'il ne s'y intéressait pas avant, s'y intéresse. Et elle le fait à travers la mémoire. Elle le fait à travers les dénonciations. Vous ne pouvez pas empêcher une présidente de Parlement européen ou un Parlement de dénoncer des pratiques. Ils sont légitimes, ils sont élus. Troisième zone d'intervention, pas prévue par les traités, elle s'immisce. La politique extérieure, l'international, tout le monde se souvient ici encore de l'invitation qu'elle lance à Anwar El Sadat, président égyptien, au Parlement européen de Strasbourg. C'est-à-dire qu'elle va sur le terrain des chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, puisque certains sont dans la salle, on va sur le terrain de la question constitutionnelle européenne. Ce n'est pas prévu dans les traités. Mais vous ne pouvez pas empêcher des parlementaires de créer une commission, de se saisir d'une question et de poser des problèmes. Et c'est comme ça, même si vous n'avez pas les pouvoirs formels d'un Parlement national, que le Parlement européen avance. Alors, le reste, la construction européenne, elle est quoi ? Elle est le fruit et des citoyens et des États. Et vous ne pouvez ni jeter l'un, ni jeter l'autre. Donc, quand vous voulez écarter les États, ils se rappellent à vous. Mais quand vous voulez écarter le Parlement, ils se rappellent aussi de temps en temps à vous. La commission Santerre, il me semble, elle est tombée. Là aussi, ils se rappellent. Et après, à partir de là, ça fait réfléchir. Mais la confrontation entre États et Parlement européen, ou si vous voulez, le système bruxellois, c'est quelque chose de tout à fait normal dans ce processus de construction. Comment vous le qualifiez ? Fédéral, confédéral, intergouvernemental, il est un peu de tout. Et donc les conflits entre les différents acteurs sont réels. Et puis puisque, juste un mot pour terminer cet élément, la nomination de Madame von der Leyen et le fait que Manfred Weber n'ait pas été désigné président de la Commission doit aussi faire réfléchir les partis européens à qui ils mettent en place comme Spitzenkandidat. Parce que là, les États ont rappelé qu'on ne va pas se contenter d'un second couteau qui arrange les partis. Parce que depuis Jacques Delors, vous aurez remarqué quand même que tous les présidents de commission sont des anciens ministres, des anciens chefs de gouvernement, sont des figures de premier plan. Et en mettant Manfred Weber, peut-être que le PPE s'est tiré une balle dans le pied. Et les États l'ont rappelé. Est-ce que c'est un déni démocratique ? Non, ce n'est pas un déni démocratique. Les États ont le droit de proposer le président de la commission. Et puisqu'on met ça en avant, je voulais dire juste un dernier mot. Hillary Clinton, elle avait plus de voix que Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Et le système américain des États, du vote par État, a fait que c'est Donald Trump qui est devenu président. Comment vous qualifiez cela ?
En tout cas, si on reste toujours dans notre capitale alsacienne, sans aller jusqu'à Washington, le Parlement européen, on l'aura compris, était...
C'est un district européen. Un district qu'on oublie. Certains rêvent pour l'Europe.
En tout cas, le Parlement européen, on l'aura entendu, peut-être considéré comme avoir été créé dans l'idée d'avoir toujours de plus en plus de pouvoir. Pas toujours aussi rapidement que certains le souhaiteraient, en tout cas. Il n'empêche que son siège est à Strasbourg. Je me tourne à présent vers Elfe Stiniel. Est-ce que cette présence du Parlement européen, mais qui n'est pas le seul, on a vu à quel point il y avait d'autres institutions internationales, d'autres institutions européennes. Est-ce que la présence de tout ce vivier d'organisations internationales a joué dans la décision du Centre européen des consommateurs de s'installer à Kiel, aux portes de Strasbourg ?
ça fait partie des décisions, certes, parce que ce réseau a été créé en 2005 par la Commission européenne et il s'est installé effectivement au sein d'une association Centre européen de la consommation qui est ACEL et qui, elle, existait depuis 1993 et qui est arrivée en concomitance avec effectivement la mise en place du traité de Maastricht et donc la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et donc une circulation et des échanges transfrontaliers qui allaient être de plus en plus nombreux entre la France, l'Allemagne, mais bien sûr des Français et tout le reste de l'Europe. Donc le choix de créer ce réseau européen pour aider les consommateurs à connaître leurs droits, mais également à se défendre lorsqu'ils ont un problème de consommation, ça a été dans deux idées par la Commission européenne et les États membres. Un, rapprocher tout consommateur de l'Europe, c'est-à-dire vous avez plus de mobilité, vous avez plus de possibilités d'achat, mais vous avez aussi la possibilité de vous faire défendre, vous informer de vos droits, mais également d'être soutenu dans tous vos actes de consommation par un service européen, juridique, de conseil, et qui est bien sûr gratuit. Et puis le deuxième choix, c'est de dire ben, il faut que dans chaque pays de l'Union européenne, y ait ce centre. Il y a un centre comme ça de juristes professionnels qui peuvent aider les consommateurs. Et le choix, c'était de dire, bah, est-ce qu'on crée tout dans les capitales ou est-ce qu'on fait ce choix pour la France, notamment, et du coup pour l'Allemagne, de rassembler deux missions européennes pour la France comme pour l'Allemagne, non pas dans les capitales, mais à la frontière franco-allemande. Et je pense qu'effectivement, le fait que ça soit Strasbourg, il y a une volonté pour le coup des Allemands de garder sur le sol allemand les missions européennes, mais pour la France, de pouvoir délocaliser cette mission-là, non pas à Paris, mais à Kiel. Le choix de Kiel a été forcément décidé parce qu'il y avait Strasbourg et qu'il y avait cette proximité avec l'Europe et qu'il y avait justement à Strasbourg cette idée qu'ici on vivait déjà l'Europe au quotidien et qu'il y aurait toutes les instances pour pouvoir nourrir ce centre de la mentalité, j'ai envie de dire, européenne.
Mais justement, cette Europe du quotidien, est-ce que par votre expérience, donc à Kiel, mais aussi à Strasbourg, est-ce que vous sentez un rapport particulier qu'ont les habitants de ce territoire vis-à-vis d'une Europe, un rapport un peu différent de ce qui pourrait exister à Paris, à Bruxelles, ou dans d'autres...
Forcément, moi je ne suis pas non plus alsacienne, je ne suis pas strasbourgeoise, mais je le vis au quotidien. Dès qu'on s'éloigne de Strasbourg, en fait, les gens n'ont pas le même rapport avec l'Europe, ni avec la mobilité, ni avec Strasbourg d'ailleurs. Et ils s'aperçoivent tout à fait que, ici, on peut avoir un visage de l'Europe, on a des instances, on a le Parlement. On sait qu'une semaine par mois, notre ville, elle est bloquée par des députés et par toute l'animation qu'il y a autour. Mais c'est vrai que si vous vous éloignez même un petit peu dans la campagne alsacienne, vous n'avez peut-être pas toute cette image du quotidien. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, il y a un tram qui va de Strasbourg à Kiel et que c'est très facile d'aller, et tous les Strasbourgeois le font, faire leurs courses, une partie de leurs courses en Allemagne. Donc, il y a au moins cette proximité avec ce pays-là. Et au-delà de ça, on est quand même dans une mobilité, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, une mobilité du quotidien vers un autre pays qui peut être l'Allemagne. Mais bien sûr, vous avez la Suisse, l'Italie qui n'est pas très loin. Donc, on voit qu'il y a une habitude, une mentalité d'aller dans un autre pays étranger et surtout une possibilité d'avoir recours à des services comme les nôtres de l'autre côté de la frontière.
Et finalement, est-ce que cette présence des institutions européennes et du Parlement et de cette proximité avec l'Europe concrète, est-ce que celle-ci se retrouve aux élections européennes et par la participation des Alsaciens aux élections européennes? Alors je pose cette question d'abord à Anne-Camille Béclin. Est-ce que finalement les Alsaciens sont plus attachés et votent plus pour lorsqu'il y a des élections européennes que les autres?
Alors attention, je parle sous le contrôle de deux historiens spécialistes de la question. C'est un mythe, le fait que les Alsaciens participent plus aux élections européennes que le niveau de participation en France. En fait, j'ai regardé ces 20 ou 30 dernières années, en moyenne, la participation alsacienne est de 2 points inférieure à la participation nationale. Il me semble, et c'est là que...
Le
mythe vient de Maastricht, où là, j'ai plus les chiffres en tête et malheureusement, je les ai pas ramenés, mais le vote des Alsaciens en faveur du traité de Maastricht a été de près de 83%. Alors que, et il y a même, alors là, j'ai jamais pu le vérifier, mais il y en a qui pensent que sans le vote des Alsaciens, Maastricht ne serait pas passé. Mais ça, pour ça, il faut avoir le nombre de votants, etc.
Mais ça s'est joué. Je crois que les Bretons ont aussi voté beaucoup pour le traité de Maastricht, donc c'est pas que les Alsaciens.
Oui, mais moins dans une. Ils ont, les Bretons ont été aussi pro-Maastricht, mais dans des proportions moins élevées que les Alsaciens. Et donc je pense que le mythe vient de là.
Peut-être pour donner un point de comparaison, aux dernières élections européennes en 2019, moi j'ai vu que, donc pas les Alsaciens, les Strasbourgeois eux-mêmes avaient eu un taux de participation de 49,9%. On est quasiment au taux national qui était de 50,1% en France. Donc on n'est pas forcément sur une métropole ou une ville plus européenne dans sa participation. Les Strasbourgeois ne se rendent pas aux urnes plus que d'autres villes françaises.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a, c'est vrai, je me souviens, il faisait très très beau à Strasbourg ce jour-là. Peut-être que les gens n'ont pas voulu aller aux urnes. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas plus de plus d'affection, de grande. Il y a des gens à Strasbourg qui sont très attachés à l'idée européenne, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'y sont pas plus attachés qu'un Nantais, qu'un Bordelais, que quelqu'un qui habite dans le Cantal ou dans le Pas-de-Calais. Le fait d'être en proximité avec les institutions européennes ne crée pas une espèce d'affection énorme dans toute la population. Je parlais du mythe et du fait que les Alsaciens avaient massivement voté pour Maastricht. Il y a aussi eu le traité constitutionnel en 2005 qui a été rejeté, mais aussi les Strasbourgeois ont très fortement voté pour. J'ai plus les chiffres. Les Barinois aussi, alors que les Haut-Rhinois ont voté majoritairement d'une courte tête, non.
Alors nous allons continuer ensemble cette émission en explorant ensuite, cette fois peut-être plus à un moment dédié aux résistances face à cette Europe, y compris à cette Europe de Strasbourg. Mais tout d'abord, nous vous laissons avec une courte pause musicale. Il est 18h13 sur Euradio.
Thank you. La Soirinale, jusqu'à 19h.
Vous êtes sur Euradio et vous venez d'écouter l'artiste Verde Prato et leur titre Ice Pack. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle partie de cette émission organisée avec le mouvement européen, le Club de la presse à Strasbourg et le Centre Europe Direct de Strasbourg consacré aux enjeux de cette Europe vue toujours de cette ville de Strasbourg. Nous sommes en direct et sans plus attendre, intéressons-nous un peu plus en détail cette fois aux résistances que nous avons pu commencer à évoquer qui peuvent s'élever face à cette dimension européenne, y compris à cette dimension européenne de Strasbourg. Je vais laisser la parole à Olivier.
Ah oui, on parle souvent du Parlement européen, la bataille du siège, des attaques contre le siège du Parlement européen. Il y en a même qui parlent de Strasbourg lorsqu'ils viennent de Bruxelles comme Strasbourg. On sait que c'est compliqué de venir à Strasbourg. Alors j'aimerais savoir, est-ce que déjà ces attaques, elles sont pour vous, hein, je m'adresse un peu à tout le monde, mais je vais d'abord commencer par Anne-Camille Béclin. Est-ce qu'elles sont réel? Est-ce que c'est vraiment plus compliqué de venir à Strasbourg? Est-ce que c'est pas le Parlement aussi qui s'est compliqué la vie? Parce qu'on peut rappeler que les sessions ont été raccourcies, hein, et qu'il vient que 3 jours et demi, alors que le rôle du Parlement est de plus en plus important. Finalement, comment c'est à Strasbourg? C'est si compliqué? C'est compliqué de venir à Strasbourg? C'est...
Alors, il y a un problème chronique qui est identifié depuis très très longtemps de desserte, en effet, de desserte aérienne. Il y a trop peu de compagnies qui permettent de faire. Alors, il y a la question des trajets depuis Bruxelles pour les assistants, les fonctionnaires qui viennent à Strasbourg pour les plénières, et depuis les États membres, puisque les députés, le week-end et certaines semaines, sont ce qu'on appelle dans leur circonscription, c'est-à-dire leur pays. Et donc, il faut pouvoir venir de Malte, de Pologne, d'Estonie, et ça doit se faire par Munich, où parfois il y a 4 heures de changement. Ça fait des longues journées pour des gens qui ont déjà une vie avec des réunions tardives, avec énormément de déplacements et un bilan carbone assez moche. Donc ça les agace de mettre autant de temps à venir à Strasbourg, qui n'a pas d'aéroport international, et une desserte en TGV qui a été très tardive depuis Bruxelles à être correcte. Une desserte en TGV entre l'aéroport de Roissy et Strasbourg qui a été bonne à une époque mais qui a décru. Donc le problème du transport reste un gros souci. Et il est, là il y a le nouveau contrat triennal, c'est-à-dire on a un contrat de soutien, c'est un budget qui est alloué à Strasbourg pour lui permettre de défendre son statut de capitale européenne. En fait, on met beaucoup de choses dedans qui n'ont pas, à mon sens, qui font partie des missions d'une ville, comme développer une ligne de tramway et des...
Après, c'est dans le titre, hein. Ça s'appelle contrat triennal Strasbourg-Capitale Européenne.
Strasbourg-Capitale Européenne, oui, mais on met dedans des programmes de recherche ou des transports en commun internes à la ville qui servent à tous les citoyens et pas... Donc, enfin, voilà. Mais le contrat triennal cherche à régler ce problème de desserte depuis des décennies. Ça a été créé par Giscard, hein, donc le premier, il date de 1980. Il cherche à régler ce problème depuis des décennies sans jamais avoir réussi. Alors, on fait du saupoudrage de mesures, on va baisser les taxes aériennes sur l'aéroport de Strasbourg, essayer de créer une meilleure desserte en TER depuis l'aéroport, une meilleure connexion entre le train et l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui a 3 fois plus de passagers par an que celui de Strasbourg et qui est beaucoup mieux connecté. C'est compliqué, mais là, aussi, ça fait partie des serpents de mer de ce dossier, c'est qu'il avait été question de créer, juste pour le transport de Bruxelles à Strasbourg, une ligne de train qui relie dignement Bruxelles et Strasbourg en passant par Luxembourg, ce qui était assez cohérent. On relie les 3 capitales institutionnelles européennes. Et alors là, c'est les Belges qui s'y sont toujours opposés. Ils ont déjà du mal à se mettre d'accord entre Wallons et Flamands. Alors se mettre d'accord, mais c'est pour garder leur... comment... Il y a les historiens qui...
mettre la pression. Mais,
ouais, pour garder leur... comment dire, pas leur monopole, mais leur quasi-monopole institutionnel sur l'Europe. On raconte que, oui, voilà, jaloux de leur monopole, ils n'ont pas trop voulu faciliter les choses avec Strasbourg. Et c'est vrai que la plupart des coups de boutoir contre le Parlement européen sont aussi passés, enfin, contre le siège de Strasbourg, sont aussi passés par des élus belges.
Je pensais à ça aussi par rapport aux eurosceptiques. On sait que les Britanniques ont quitté l'Union européenne et en partie beaucoup de députés qui étaient anti-Strasbourg avec eux. Je vous pose la question, vous, monsieur Libéra, qui avez quand même travaillé sur les partis eurosceptiques, est-ce que ça fait partie aussi de députés qui sont plutôt contre l'Europe, d'être contre Strasbourg? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, ou c'est principalement, on peut trouver des députés anti-Strasbourg partout?
Oui, moi, je vois pas spécialement de lien. Je pense que les anti-européens sont plutôt anti-parlement européen. Enfin, entre autres, hein, mais ils peuvent être opposés à l'idée du Parlement européen. Mais la localisation aussi, évidemment, certains vont actionner le fait que l'existence de deux parlements européens accroît les dépenses, que c'est une gabegie financière, etc. Donc ils vont utiliser cet instrument-là. Mais les oppositions à l'Europe, de toute façon, sont aussi anciennes que l'Europe elle-même. Si vous regardez, dès 1950, hein, dès la CECA, il y a toute une série d'opposants à la CECA qui essayent même de torpiller le projet. Il ne faut pas aller très loin. Hein. On va en Lorraine, on regarde ce qu'ont fait les grands sidérurgistes français. Ils ont essayé de torpiller le projet de CECA. Bon, ça n'a pas fonctionné. Mais... Donc, dès 1950, il y a des oppositions. Ces oppositions... Alors, je ne veux pas être trop long sur le sujet, mais 1950, c'est aussi le début de la CED, Communauté européenne de défense, lancée par la France, qui capote... après que le traité ait été signé en 1952, que tous les États ont ratifié le traité, eh bien, qui capote par la faute de la France ou pas à cause de la France, puisque en France, la ratification n'a pas lieu. Donc dès 1900, vous voyez, dans ces années-là, voilà. Et qu'est-ce qu'on reproche à ce moment-là à l'Europe ? Ben, en France, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Les communistes et les gaullistes sont des alliés objectifs sur l'idée que cette Europe qu'on leur propose est trop fédérale. Donc ça les gêne, ils y sont hostiles. Pour eux, il n'est pas question de transformer la défense, une compétence régalienne par excellence, au fond de la fédéraliser. C'est un élément qui les lie. L'autre élément qui les lie, c'est le fait que eh bien, dans cette Europe de la défense, on veut faire entrer les Allemands. Et donc ça pose aussi un gros problème. Qui est lié au fond au fait qu'on est en 1950, hein, donc on propose la constitution d'une armée européenne 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc tous ceux qui sont hostiles à l'Europe, notamment les communistes qui utilisent beaucoup un argumentaire de guerre froide, une propagande de guerre froide, montrent qu'en fait, construire l'Europe dans la défense, ça va surtout permettre de reconstituer l'armée allemande et de faire ressusciter les vieux démons allemands, à commencer par le nazisme et la volonté de revanche. Donc, souvent, on dit, c'est pas totalement faux, que les oppositions à la construction européenne débutent après la signature du traité de Maastricht, après 1992, après le passage à l'Union européenne. C'est vrai dans une certaine mesure, puisque là, l'Union européenne devient un acteur politique de premier plan. Elle n'a plus uniquement des compétences économiques, mais aussi des compétences politiques. Et donc, elle est un acteur parmi d'autres. Et en tant qu'acteur politique parmi les autres acteurs politiques, elle est davantage critiquée. Mais vous voyez, par les deux exemples que j'ai donnés, dès le début... L'Europe est critiquée, l'Europe est attaquée.
Mais alors, si on revient sur cette présence de l'Europe à Strasbourg, sur le temps long, ceci étant dit, est-ce que la présence du Parlement européen, pour prendre cet exemple finalement qui catalyse un peu ces critiques d'un siège à Strasbourg ou pas à Strasbourg, est-ce que la présence du Parlement européen à Strasbourg se renforce ou bien elle s'éloigne ? Peut-être Sylvain Schermann, si vous voulez vous exprimer en premier ou...
Vous m'excuserez, mais je n'ai pas bien compris le sens de la question.
Par exemple, plutôt, vous nous expliquez en quoi c'était évident pour vous, au sens historique, que le rôle du Parlement européen s'étoffe au fil du temps. Si on s'intéresse maintenant à sa présence à Strasbourg, est-ce qu'elle aussi se renforce ou pas ?
Écoutez, pour faire bref, la meilleure garantie pour Strasbourg reste le traité. Il est noir sur blanc... coulé dans le marbre, et il vous dit très clairement que pour modifier le siège, il faut l'unanimité des États. Donc j'imagine mal aujourd'hui un chef de l'État français renoncer au siège du Parlement européen à Strasbourg. Mais si vous voulez, les critiques, elles, sur la présence des institutions européennes à Strasbourg, même si on peut déceler quelques critiques sur la ville, j'en ai cité dans la presse scandinave quand il y avait le Conseil de l'Europe, les vraies critiques commencent après l'élection du Parlement européen au suffrage universel, parce que là, le Parlement va prendre du pouvoir. Et donc, on va mettre en avant des arguments, rationnels, la concentration des lieux de pouvoir en un endroit, parce que partout, vous observez l'exécutif, le législatif au même endroit. On va mettre ensuite en avant... des aspects pratiques que Mme Béclin a soulignés, transport, etc. Mais tout cela procède, si vous voulez, de la montée en puissance du Parlement européen et de l'idée comment doit fonctionner une démocratie européenne. Est-ce qu'elle doit fonctionner comme elle fonctionne dans les États, avec une capitale et la présence des institutions? Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose de différent, de comme diraient mes collègues de sciences politiques, de polyarchique, c'est-à-dire de plusieurs pôles de gouvernement? Ça, c'est la question. Mais les critiques vives contre le siège de Strasbourg commencent au moment de l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Avant, qu'est-ce que vous voulez? Personne ne connaît quasiment l'existence de cette institution où on se réunit en quelques sessions par an, où on délègue des députés nationaux. Après, ça dépend des États. Il y a des chefs d'État, je voudrais quand même le souligner ça, qui ont eu du courage, ou des chefs de gouvernement pour défendre Strasbourg. Je rappelle toujours pour mémoire que le premier chef de gouvernement d'un gouvernement d'un pays de la Communauté économique européenne à venir s'exprimer devant le Parlement de Strasbourg, qui n'était pas encore élu, c'était Willy Brandt. Willy Brandt est le tout premier, 1971. Et à partir de ce moment-là, ça interpelle d'autres chefs de gouvernement qui se disent que peut-être on peut venir dire quelques mots à cette auguste assemblée. Donc ça dépend aussi de l'initiative des individus, des responsables politiques et de leur conception de l'Europe. Et tout le monde sait que Willy Brandt, dans les années 70, a essayé avec Georges Pompidou, mais ils ont partiellement réussi, de relancer la mécanique, mais lui voulait aller encore plus loin que le président français. C'est des thèmes d'Europe sociale. Donc il s'est appuyé sur qui pour avancer ça? Il est venu en parler aux députés du Parlement européen qui n'étaient pas élus. Mais après, la pratique s'est généralisée de venir s'exprimer comme chef d'État ou de gouvernement devant le Parlement européen. C'est bien la preuve qu'on lui accorde une forme de légitimité et où on va s'exprimer. Et tant qu'ils le font ici, c'est très bien, parce qu'en fait, ça veut dire que pour eux aussi, le siège est là. Quand le roi d'Espagne, je termine par ça, Felipe, est venu s'exprimer au Parlement européen, il renforce en quelque sorte la légitimité de l'endroit où il s'exprime. Donc, la meilleure garantie, ça reste le traité.
Mais c'est vrai, on est ici au Club de la Presse, hein, on a toutes les photos des personnalités européennes qui sont des personnalités du mondial qui sont venues au Parlement européen parce qu'il a son siège ici. Anne-Camille Béclin, vous suivez le Parlement, vous y êtes tous les jours, vous voyez même tous les votes qui y passent, il y a souvent des votes budgétaires, des votes réguliers pour...
Je ne les comprends pas tous.
j'aime bien dire vous le savez, comme ça me décharge aussi. Non, mais donc vous suivez donc ce qui se passe au Parlement européen. Vous, avec le temps long aussi, avec le fait qu'il y ait eu le coronavirus, le fait que le Parlement européen n'ait plus siégé à Strasbourg, qu'il y a eu quand même pas mal de visio pendant ces moments-là, le fait aussi que le Parlement européen ait été utilisé pour autre chose, hein, comme un centre vaccinal, etc. Mm-hmm. Finalement, en regardant ça avec ce regard-là, est-ce que finalement, cette période-là, ces trois dernières années, ces quatre dernières années, est-ce qu'elles ont été difficiles? Est-ce qu'elles ont amoindri, finalement? Elles ont mis en difficulté le Parlement européen? Ou finalement, il en sort comme un statu quo? C'est pareil qu'il y a quatre ans, finalement.
Alors, en fait, il y a deux facteurs, ces quatre dernières années, qui ont plutôt tendance à moins fragiliser, je ne vais pas dire à renforcer, le siège du Parlement. Et la première, pour parler du Covid que vous citez, Olivier, en effet, on pouvait penser qu'un an et demi de Parlement en visio, ou surtout à Bruxelles, en fait, parce qu'en la première période, le Parlement a siégé en visio. Ils votaient tous depuis leur cuisine, voire c'était les assistants qui votaient. Et ensuite, le Parlement était hybride, c'est-à-dire que ceux qui voulaient être à Bruxelles pouvaient l'être et voter à Bruxelles, mais ceux qui voulaient rester dans leur cuisine pouvaient. On a eu peur qu'en plus le Parlement a commencé, enfin le Covid et les confinements ont commencé 8 mois après l'élection du nouveau Parlement européen, alors qu'il y avait déjà 50% de renouvellement, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 350 députés qui n'étaient pas habitués, enfin qui n'avaient pas pris l'habitude de ce Parlement qui se déplace, etc. Et qui, en tout cas, qui n'avaient pas eu le temps. Et d'un seul coup, ils se retrouvent pendant un an et demi à pouvoir faire parlementaire en télétravail. On s'est dit peut-être que ils vont vraiment pas avoir envie de revenir. C'est vrai que quand le Parlement est revenu au bout d'un an et demi, enfin les sessions sont revenues à Strasbourg au bout d'un an et demi, il y en a un peu qui ont râlé. Mais au final, ils ont été heureux parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des législations qui était de beaucoup moins bonne qualité, parlons de la politique agricole commune par exemple, qui a une espèce de paquet avec énormément de détails très complexes qu'on ne peut pas régler en visio en fait. Il faut de la fluidité, il faut se parler dans les couloirs, il faut que les assistants se voient, et ça le fait d'avoir une législation de moins bonne qualité, de moins bien la comprendre, de moins bien pouvoir l'expliquer, et ça aussi bien les députés que les assistants, ils se sont rendus compte de la richesse qu'il y avait juste de pouvoir travailler physiquement sur un même lieu. Et le Parlement de Strasbourg est jugé pour ça beaucoup plus pratique, pour le fait de croiser des gens, pour le fait de le bonheur de croiser des gens par hasard, la sérendipité au quotidien. C'est très important dans tous les métiers en fait, et quand on fait de la politique c'est très important, et pour ça le Parlement de Strasbourg avec sa très grande allée centrale est jugé beaucoup plus pratique, beaucoup plus convivial en fait, par les députés et les assistants, qu'il faut surtout jamais négliger quand on parle de contestation de Strasbourg. C'est le plus souvent les assistants qui sont pas contents.
Les assistants d'eurodéputés.
Les assistants parlementaires. Oui, je parle pas des fonctionnaires, c'est encore autre chose. C'est les assistants qui travaillent avec les assistants parlementaires. Oui.
Alors moi, je me permets d'élargir un peu ce point en parlant non pas seulement du Parlement européen, mais même de cette dimension de l'Europe à Strasbourg. Il y avait un autre effet cette fois plus brutal pendant cette pandémie de coronavirus. C'était pas seulement le télétravail, c'était même le retour des frontières. Alors ici à Strasbourg, on le sait bien, puisque la frontière de la ville, c'est aussi la frontière du pays. Je me tourne vers Elfes Tignel. Je suppose qu'à Kiel, c'est aussi cette barrière qui soudain est apparue entre le Centre européen des consommateurs et les autres institutions internationales et européennes, comme le Parlement, qui elle était à Strasbourg, de l'autre côté de la rivière. Je suppose que vous l'avez vécu de manière assez brutale finalement, dans votre quotidien aussi. Ma question étant, est-ce que selon vous, il y avait encore une Europe à Strasbourg pendant ces mois difficiles?
Oui, c'était compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout pour nous qui sont travailleurs transfrontaliers et qui vivons à Strasbourg et qui du jour au lendemain ne pouvaient plus aller travailler de l'autre côté de la frontière sans montrer patte blanche ou en tout cas un test négatif tous les 3 jours. Donc c'était plus que compliqué. Et puis c'est vrai qu'on a vu revenir cette peur de l'autre, enfin toutes ces rengaines qui nous faisaient nous comprendre ce qu'était le bienfait de l'Europe, c'est-à-dire de plus avoir de frontières, mais et d'avoir une fluidité d'échange entre deux pays pour le coup. Et c'est vrai que ce télétravail des eurodéputés a vraiment aussi modifié la ville pendant ce temps-là, modifié les décisions. Et je rejoins tout à fait Anne-Camille quand elle dit que c'était un bonheur de revenir à Strasbourg, mais aussi pour rencontrer la société civile, des associations et tout ce que Strasbourg offre également aux eurodéputés. C'est pas seulement effectivement un lieu pour voter des lois, mais c'est un lieu pour échanger, rencontrer d'autres personnalités, d'autres associations, et peut-être vivre autrement qu'à Bruxelles, comme on le dit, dans un bunker européen, mais vraiment plutôt dans une région qui est pour le coup frontalière et qui a des échanges quotidiens avec la France comme avec l'Europe.
Donc, si, finalement, si on le regarde d'une manière plus positive, c'est qu'il y avait un vrai besoin, une vraie volonté des acteurs du territoire de recommencer à travailler ensemble, de refaire vivre cette dimension européenne.
Post-Covid, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai eu l'impression qu'en fait, on a recompris pourquoi on avait fait l'Europe. C'est-à-dire que d'un seul coup, les frontières se ferment et alors les Strasbourgeois, travailleurs, étudiants, mais qui avaient de la famille de l'autre côté de la frontière, ont tout de suite compris les complications que ça créait d'avoir des contrôles aux frontières et des difficultés pour accéder dans le pays voisin, que ce soit pour faire des courses, mais aussi pour juste traverser, pour aller en Autriche. Donc, il y avait vraiment aussi ce besoin d'Europe, et j'ai aussi eu l'impression que ce temps de Covid a permis, avec les négociations des vaccins, de s'emparer d'un sujet qui est la santé, qui n'est pas un sujet européen à la base, mais qui est un sujet national, mais que effectivement, dans ces circonstances-là, l'Europe a montré son pouvoir de négociation, par exemple sur ces vaccins, et cette vraie volonté de pouvoir recréer de l'unité sur un sujet qui nous concernait tous et qui nous affectait tous. Donc, ça a été, on va dire, moi je vois le côté positif, vous le voyez, mais on va dire que c'est pour moi le côté positif.
Et si on regarde un peu cet aspect un peu franco-allemand, quel est le regard sur le statut européen de Strasbourg, mais vu de l'autre côté de la frontière, est-ce que ça a un sens, vu d'Allemagne, ce Parlement à Strasbourg, est-ce que c'est quelque chose qui est vu positivement? Je ne sais pas si je m'exprime, mais quel est le regard finalement, puisque de l'autre côté de la frontière, si on est à Karlsruhe, on est à autre, on est très près du Parlement européen. Est-ce que ça se ressent aussi juste à côté, ou finalement, eux, ils s'en fichent
C'est juste un indicateur, éventuellement. Ça doit être un indicateur parmi d'autres, mais j'en ai pas d'autres. Il y a plus d'Allemands qui visitent le Parlement européen à Strasbourg que de Français.
Oui, parce qu'on peut visiter le Parlement européen.
C'est un bon indicateur, comme la cathédrale en fait.
Oui, alors après il y a l'effet tourisme, on est d'accord, il y a l'effet tourisme. Mais il me semble que c'est, quand on prend allemand et français, c'est 60% d'allemand, 40% de français.
Ouais. Il y a un train effectivement, Paris-Berlin, de nuit, donc il y a qui passe par Strasbourg, avec cette vraie volonté de rejoindre effectivement les deux capitales. Et puis, au-delà du Parlement et tout ça, il y a vraiment de la coopération franco-allemande à travers différentes institutions et donc, du coup, qui se rapproche du Parlement.
En fait, ce que je voulais demander aux historiens, c'est cette dimension européenne. Est-ce qu'elle, cette réconciliation franco-allemande aussi, est-ce qu'elle parle encore aujourd'hui? Ça ne vous inspire pas, mes questions, hein?
Oui. Non, mais, La relation franco-allemande est comme toute relation bilatérale. Elle connaît des hauts et des bas. Et actuellement, on est plutôt sur un bas. Hein. On est même sur un très bas. Voilà. Et donc, mais ceci étant, je ne pense pas que le fait que les relations franco-allemandes soient à l'état réfrigéré ait des conséquences sur la façon dont les Allemands considèrent Strasbourg, les enjeux européens.
Moi, je me souviens d'une personne, je me souviens de, j'ai toujours du mal à dire son nom, hein, c'est Annegret Kramp-Karrenbauer, qui était, je crois, ministre de la Défense, si je ne me souviens pas, qui avait dit qu'il fallait en finir avec cet anachronisme du siège du Parlement à Strasbourg. Donc là, on était quand même au stade, au niveau ministériel, déjà il y a quelques années.
Hein. Elle s'exprimait comme présidente de la CDU, il me semble.
AKK. Oui, tout à fait.
Annegret Kramp-Karrenbauer.
Elle était mal placée pour en parler, parce que comme ministre-présidente du Land de Sarre, elle a fait énormément pour la coopération transfrontalière entre la Lorraine, le Luxembourg et la Sarre, parce que la coopération transfrontalière, elle est aussi active dans cette partie-là de la frontière franco-allemande. Après, juste pour ajouter un mot sur l'Allemagne, tout dépend où vous êtes en Allemagne. Il est assez patent que pour l'ancienne RFA, d'avant 89, Strasbourg, c'est quelque chose de tout à fait accepté, de naturel dans le franco-allemand. Mais pour les Neuerländer, comme disent les Allemands, pour l'ex-Allemagne de l'Est, c'est moins évident. Le siège et Strasbourg comme symbolique, parce que pendant quand même 50 ans à peu près, ou 40 ans de leur histoire, on leur a raconté une autre histoire. Et ça ne s'efface pas aussi facilement que cela. Des mémoires. Il faut en général plusieurs générations pour que la mémoire soit maîtrisée. Et quelle est cette autre histoire? C'est que, en fait, la construction européenne est une construction destinée, comme Martial Libéral a rappelé il y a un instant, à contrecarrer le projet soviétique et à contrecarrer le communisme. Et donc, Strasbourg, c'est la capitale de l'ennemi, entre guillemets, idéologique des impérialistes occidentaux, et donc en Allemagne de l'Est, il faut un peu de temps, et ça se sent encore, et dans les votes de cette partie-là de l'Allemagne sur les questions européennes, et dans l'attitude à l'égard de ce qui est couramment admis dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, que Strasbourg, c'est le symbole de la réconciliation franco-allemande.
Mais à côté de ça, il y avait des députés européens d'Europe sale, maintenant, qui était attaché aussi à Strasbourg, parce que symbole de réconciliation, là où ça leur parle aussi, même si c'est pas leur réconciliation. C'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire entre l'Allemagne et la Pologne, par exemple. Et justement, le premier président du Parlement qui a été issu de des États d'Europe centrale, Jerzy Buzek, qui était polonais, était très attaché à Strasbourg parce qu'il était de Silésie. Il dit, nous aussi, on a été annexés. Et on a une histoire assez similaire. Et l'histoire de Strasbourg, si le symbole de Strasbourg était chez moi, je le défendrais et je le défends ici. En fait, il n'y a jamais eu d'ailleurs aucun président du Parlement européen, à part Simone Veil, qui a été contre le siège de Strasbourg. C'est là qu'elle a... Mais Jerzy Buzek disait ça très bien. Il y a aussi quand même un attachement à ce symbole, là où ça va peut-être un peu moins parler aux jeunes Allemands de l'Ouest. L'Europe, c'est la paix. Et donc, les symboles de réconciliation, etc., on a l'impression qu'ils portent quand même beaucoup moins avec les générations. Et que, par contre, les arguments budgétaires pèsent beaucoup plus que les arguments symboliques.
Mais Strasbourg reste quand même donc une ville européenne, y compris dans cette dimension historique, finalement.
Oui, je pense qu'il faudrait plus se raconter. Il faudrait plus s'expliquer que la place Broglie, pendant 4 ans, elle s'est appelée Hitlerplatz. C'est parlant, quoi. Et je m'étais retrouvée un soir comme ça avec des journalistes danois et néerlandais, qui, comme tout danois et tout néerlandais, ça faisait quand même partie des pays dont les programmes de gouvernement, les programmes de coalition disent qu'il faut en finir avec le siège du Parlement européen à Strasbourg. Ça arrive dans certains programmes de coalition. Et puis, ils disent, ouais, Strasbourg, il y en a marre. Et puis là, j'aurais expliqué, mais vous savez, l'annexion, je leur disais le nom des rues, la traduction sous place de la République, c'est Kaiserplatz, la place de l'empereur. Et leur expliquer cette histoire-là, d'un seul coup, ils comprenaient l'histoire compliquée et dans quelle mesure cette région et cette ville étaient représentatives de siècles d'opposition française et allemande.
Je crois que je me souviens même que Joseph Doll, qui était donc président du PPE, a amené des députés au Struthof pour leur montrer exact aussi le...
Et au mémorial d'Alsace-Moselle. Ouais. D'ailleurs, le Parlement a un partenariat avec le mémorial d'Alsace-Moselle pour que les visiteurs du Parlement européen puissent aussi aller visiter le mémorial et donc savoir pourquoi il est là, en fait.
Je rappelle à nos auditeurs donc, que le Struthof, c'est le camp de concentration présent en Alsace, qui est un cas donc, exceptionnel pour une région française. À ce stade de l'émission, je propose que nous quittions pour un moment l'histoire et que nous nous intéressions plus au futur, puisque nous sommes en préparation des prochaines élections européennes. C'est même la raison d'être de ce cycle d'émissions. Moi, je voudrais me tourner à nouveau vers Anne-Camille Béclin pour une question plus pratique. En tant que journaliste européenne basée à Strasbourg, comment on se prépare à une élection où souvent les caméras sont plus tournées vers Bruxelles ou vers Paris.
Alors le truc c'est qu'elles sont plus tournées vers le peut-être elles s'intéressent les candidats depuis que les listes sont à nouveau nationales, les candidats font campagne à Paris et dans les médias nationaux. C'est vrai que les campagnes régionales étaient très très compliquées à couvrir pour tout le monde et donc c'est peut-être un mal pour un bien. Donc ça fait maintenant des campagnes avec des têtes de liste bien identifiées au niveau national et qui vont faire du coup des campagnes très nationales. Et après la campagne elle est couverte à l'échelon supérieur, c'est l'Union européenne. Là, je ne vois pas encore ce frémissement-là dans la campagne où on s'intéresse un peu aux thématiques de façon européenne. Et là, dans ce cas-là, on va regarder vers Bruxelles et on ne regarde Strasbourg que quand il s'agit de dire le Parlement, il y a 4 jours Parlement à Strasbourg, ça coûte cher. Donc, comme tous les 5 ans, je dois refaire un article sur pourquoi Strasbourg, il paraît demain soir. Pour l'expliquer à nos collègues, puisque je travaille pour les DNA, mais aussi pour tous les journaux du groupe EBRA, donc aussi pour expliquer à nos lecteurs du Dauphiné libéré, du Progrès, du Républicain Lorrain, etc. Pourquoi Strasbourg ? Parce que déjà, il y a souvent beaucoup de gens à Strasbourg qui ne le savent pas. Alors vous imaginez, à Lyon, en Lorraine ou dans les Vosges. Les Vosges sont en Lorraine, pardon. Donc voilà. Et là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde la semaine prochaine, parce que c'est la dernière session de la mandature. Et ce sera la dernière fois, je pense, qu'on verra beaucoup de monde à Strasbourg avant les élections.
Alors, chacun et chacune à votre niveau, donc vous travaillez aussi à cette dimension européenne, que ce soit à travers les territoires, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers l'histoire. Nous avons entendu Anne-Camille Béclin nous parler de son quotidien de journaliste, à quel point ça peut être compliqué parfois de couvrir des élections européennes dans son propre territoire, voire même de territorialiser, ce qui est paradoxal pour une ville qui justement est une capitale européenne. Alors peut-être à présent Sylvain Schermann ou Martial Libera, on a dit plutôt dans cette émission que vous venez de publier un livre qui s'appelle « Idées reçues sur l'Europe ». Est-ce que c'est important pour vous de le publier dans un contexte de préparation d'élections ? Ça joue un rôle de sensibilisation des lecteurs, par exemple ?
Ah oui, c'est essentiel. L'idée de ce livre, c'était justement de proposer, rédigé par des spécialistes de la construction européenne, alors des historiens, mais pas que, des juristes, des spécialistes d'information et de communication, des géopoliticiens. L'idée, c'était, des spécialistes de sciences politiques, c'était de reprendre un petit peu ces idées reçues qui font florès sur l'Europe, alors pas toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, et d'essayer de proposer des textes courts, nerveux, qui reprennent des éléments très factuels et qui essayent de poser les choses, c'est-à-dire de donner, non pas une vérité, parce que le terme de vérité est sans doute excessif, mais la vision la plus objective d'un certain nombre de questions qui touchent à quatre grands domaines qu'on a choisis, les valeurs de l'Union européenne, ses institutions, sa gouvernance, ses politiques, et puis enfin la place de l'Europe, de l'Union européenne dans le monde. Et l'objectif de ce petit livre, c'est un objectif pédagogique, c'est aussi un objectif qui vise à ce que les citoyens européens, enfin en tout cas les citoyens français, puisqu'il est écrit en français, même s'il y a des universitaires européens qui ont participé, belges, italiens, allemands, l'idée c'est non pas de prendre position pour ou contre l'Europe, comme on le voit dans beaucoup d'essais qui paraissent avant les élections européennes, mais d'essayer de proposer la vision la plus neutre. Alors, parfois, ces idées reçues, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont globalement fausses sur un sujet, mais la plupart du temps, on s'aperçoit qu'il y a du vrai, du faux. On s'aperçoit aussi que, contrairement à ce qu'on pense, l'Union européenne fonctionne plutôt bien, mais qu'il y a encore un certain nombre de pistes d'amélioration. Donc ça, c'est l'idée du livre. C'est un petit livre qui fait 200 pages.
Vous avez un exemple peut-être à nous partager d'idées reçues mi-vraies, mi-fausses ?
Ben, elles sont presque toutes dans ce cas-là. Hein. Dans toutes les idées reçues, il y a souvent une part de vrai et puis il y a souvent une part de faux. On parlait tout à l'heure, Sylvain Schirmann parlait tout à l'heure du Parlement européen et de ses prérogatives. On voit bien que souvent, quand on prend l'autre idée importante du livre, c'était de donner une profondeur historique pour montrer comment une question évolue dans un temps qui n'est pas le temps long, mais la moyenne durée, on va dire. Et pour le Parlement européen, c'est un bon exemple. La Commission, c'en est un autre, hein, où l'idée reçue, c'est la Commission décide de tout. Et donc, notre collègue belge Michel Dumoulin nous montre dans la petite idée reçue qu'il a rédigée sur la Commission européenne que non, la Commission européenne ne décide pas de tout, même si à la base, elle avait un pouvoir très important et elle est amenée à faire des propositions, mais elle les fait sur la base du Conseil européen. Ensuite, les actes législatifs doivent être validés par, enfin, votés par le Parlement européen, par le Conseil de l'Union européenne. Ça, on voit bien que cette idée, hein, qui est en fait que Bruxelles décide de tout, c'est les technocrates qui décident de tout, est fausse. Voilà. Après, on a aussi, et je donne la parole ensuite à Sylvain Schirmann, on a aussi parfois des idées reçues qui vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que certaines idées sur l'Europe sont très très positives. Erasmus, et c'est vrai qu'Erasmus c'est très positif. Ça permet aux étudiants d'aller étudier une année à l'étranger, d'apprendre à connaître un autre pays, une autre langue, de faire tomber des préjugés, de développer leur conscience européenne. Tout ça c'est très positif. Souvent c'est une année très importante dans une vie d'un jeune. Mais ce qu'on dit jamais, c'est que Erasmus, ça concerne une infime minorité des étudiants européens. Et que cette minorité d'étudiants européens, c'est en général des étudiants qui sont dans des universités d'élite, dans des écoles spécialisées. Et donc, parce que pour partir en Erasmus, il faut de l'argent. Parce que pour partir en Erasmus, il faut ça, on ne sait pas non plus. Mais quand vous rentrez dans la cuisine d'Erasmus, il faut voir quels sont les partenariats qui sont signés au sein d'Erasmus par chacune des universités qui sont parties prenantes. Et parfois, vous avez beaucoup de choix. Quand on est à Sciences Po, on a beaucoup de choix. Quand on est dans une université, enfin une faculté générale de sociologie, on n'a pas forcément autant de choix. Et puis, selon où on est en Europe, on n'a pas non plus beaucoup, les mêmes chances. Donc il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs démographiques, il y a des facteurs familiaux, avec par exemple des parents qui ont voyagé ou des parents qui ne sont jamais sortis finalement de chez eux. Tout ça fait que Erasmus, c'est une idée géniale, mais c'est une idée... Enfin, c'est un programme qui devrait être davantage généralisé.
Ce qu'on voulait faire en deux mots, c'est décortiquer ce qui venait comme idée véhiculée par l'euroscepticisme, mais aussi ce qui venait comme idée véhiculée par les idolâtres de l'Europe.
Décortiquer les deux.
Alors, pour Elfège, vous, au Centre européen des
consommateur. Vous avez vous préparé aussi aux élections européennes. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en avant dans cette période?
Oui, nous, on a fait le choix justement de parler de l'Europe concrète. Et donc les exemples que vous donniez, Erasmus, bah, ça en fait partie, mais on peut avoir des choses de tous les jours qui vont nous concerner tous. Je pense au chargeur universel. C'est des petites choses comme ça du quotidien qui font qu'on peut aussi dire que ça vient de l'Europe, qu'à partir du 28 décembre de cette année, nous aurons a priori qu'un chargeur pour charger nos téléphones, tablettes, etc. Mais on a plein d'exemples dans notre vie quotidienne, mais on ne sait pas toujours que ça vient de directives ou de règlements européens. Dans tous nos modes de transport, on bénéficie de protections.
Vous qui suivez le droit européen des consommateurs depuis des années, qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple, le plus dans cette législature? Vous évoquiez le chargeur universel.
Le chargeur universel, parce que c'est symbolique. Voilà, on va tous en bénéficier. Ce qui est fort, là, ces dernières années, pour les protections des consommateurs, c'est tout ce qui est règlement sur les services numériques et le marché numérique. C'est clairement le défi de l'Europe de s'attaquer au commerce en ligne, à la protection des consommateurs sur les produits importés des pays tiers qui sont vendus sur des plateformes très connues et qui ne sont pas responsables de ces achats. Donc vraiment, l'Union européenne s'est dit qu'il faut taper aussi sur les géants du numérique qui détiennent ces plateformes, mais qui ont également un monopole considérable sur toute notre vie quotidienne, que ce soit nos paiements en ligne, nos applications, etc. Donc c'est une vraie plus-value pour l'Europe de vraiment aller sur ce terrain-là et d'aller mettre des sanctions très fortes même pour ces géants du numérique qui nous touchent, et donc de faire appliquer des lois européennes à des entreprises qui ne sont pas sur le sol européen mais qui s'adressent aux clients européens. Et puis il va y avoir tout le défi de l'intelligence artificielle, on ne va pas y échapper effectivement. Moi, le défi de l'Europe, et là je suis très positive mais des fois j'ai quand même une petite touche de critique et je la formule ici, c'est vraiment de dire qu'il faut accélérer le processus de décision, parce que face à l'intelligence artificielle qui développe toute nouvelle technologie en moins de 6 mois, quand on a une décision qui est appliquée en 2 ans, c'est pas possible.
Ici à Strasbourg, le Parlement européen a voté la première loi de législation sur l'intelligence artificielle. Donc il y a un terreau, il y a un début.
Qui sera appliqué donc dans 2 ans. Et d'ici là, combien de nouvelles technologies auront apparu?
Anne-Camille Béclin, vous qui suivez, je le répète, travail parlementaire, il y a quelque chose qui vous a marqué pendant cette législature? Vous retenez quoi?
Tous les sujets numériques sont très importants. Ils sont compliqués à décrypter, aussi bien dans leur application et dans leur capacité d'effectivité réelle. C'est toujours un peu compliqué de voir comment concrètement ça va s'appliquer, parce que dès qu'on parle de vente par Internet transfrontalière avec des entreprises qui font un peu ce qu'elles veulent, c'est un peu compliqué de voir comment les sanctions vont pouvoir être appliquées. Oui, je dirais tout ce qui est... Et ce qui est étonnant dans l'Eurobaromètre, l'enquête dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand on voit la liste des sujets qui intéressent le plus les Européens, les questions numériques arrivent quasiment en dernier. Alors que, comme le disait Elfège, l'intelligence artificielle va révolutionner nos vies. Il risque d'arriver à beaucoup de professions intellectuelles, ce qui est arrivé à beaucoup de professions manuelles et ouvrières avec la mécanisation. Et donc il faut se rendre compte de l'importance d'avoir une législation et une éthique de l'intelligence artificielle très très vite. Et ça, on parlait d'intelligence artificielle et de Strasbourg. Toute la réflexion profonde sur l'éthique de l'intelligence artificielle, elle se fait à Strasbourg au Conseil de l'Europe, où viennent les experts et les parties prenantes.
Donc c'est ça le dernier mot finalement que vous donneriez aux électeurs avant ces élections de...
Ah non, je pense qu'on voit aussi dans la liste des enjeux pour les électeurs qui listent très haut les questions de pouvoir d'achat, de niveau de vie, d'emploi, de d'économie.
Sécurité.
La sécurité arrive beaucoup plus loin et l'immigration arrive en 7e position des classements aussi bien français. Donc le fait de raconter partout que c'est l'une des priorités des Européens, c'est faux en fait. Ça vient en 7e position de leurs préoccupations quotidiennes. Par contre, les questions de pouvoir d'achat, de niveau de vie et de sécurité économique à moyen terme sont vraiment cruciales. Et la santé.
On termine par vous, messieurs. Que retenez-vous? Quel serait pour vous ce que l'Europe devrait faire dans les prochaines années, peut-être même se projeter dans les 5 prochaines années? Quel serait pour vous un sujet sur lequel l'Union européenne devrait se pencher?
Moi, je
J'étais frappé par rapport aussi à son discours ici devant le Parlement par cette idée d'une Europe qui doit être géopolitique. Je pense que c'est un défi majeur, pas pour les 5 ans qui viennent, c'est un défi majeur dans les mois qui viennent. Parce que quand on regarde le monde, c'est dans ce monde-là qu'on est obligé de se mouvoir, et ce monde-là n'a rien de sécurisant. Et donc, il faut aborder des chapitres qui vont faire tanguer en Europe, parce que j'imagine pas qu'ils vont être simples, mais qui s'appellent politique de défense, politique de sécurité, politique extérieure, tout ça est lié. Et là, j'annonce des parties de plaisir, mais c'est incontournable.
Très bien, ben nous arrivons au terme de cette émission en direct depuis Strasbourg. On espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir la dimension européenne de cette ville. Un grand merci à nos 4 invités, Anne-Camille Béclin, Martial Libera, Sylvain Schirman et Elfel Stignel, pour votre participation à cette émission. Et en attendant le rendez-vous le 9 juin prochain pour les élections européennes, nous, quant à nous, on vous invite à nous retrouver pour un prochain débat ici au Club de la Presse, pour un autre sujet, à la fois, toujours en lien bien sûr, un sujet qui sera intitulé cette fois « Élections européennes, que veulent les Européens ?» Ce sera le jeudi 16 mai. Merci à toutes et à tous pour votre attention.